bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale avec Léa Kadobunagi, Agnès Surstel, Daniel Morin,
oh, bonjour Agnès,
Albert Algo, tout à l'heure Tanguy Passuro et notre invité Monsieur Claude Lelouch. Bravo. Ravi de vous accueillir, Claude, dans cette bande originale avec ce superbe, sublime film « Les plus belles années d'une vie ». Avant de commencer, comment allez-vous déjà? C'est la première des politesses à avoir avec vous.
Je vais de mieux en mieux.
Ça se voit,
mieux, ouais. Puisque les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Ouais.
Mais non, je trouve en pleine forme, ouais. Souriant, heureux, la bonne mine. Cannes, c'est bien passé?
Mieux que ça. D'ailleurs, je crois que vous étiez pas loin.
Je confirme.
Vous étiez pas loin.
Donc, le privilège d'être à quelques mètres de...
On a vécu un joli moment, un moment magique.
Votre équipe, ouais.
Surtout quand toute la salle a repris en chœur le thème d'un homme et une femme.
C'était incroyable, ça.
Il y avait longtemps que j'avais pas eu la larme à l'œil, quoi.
Ah, c'est ça? Imaginez, à la fin du film, Standing Ovation, d'abord, on va quand même raconter dans l'ordre, Standing Ovation, énorme émotion, l'équipe du film se prenant dans les bras l'un l'autre, c'est un film hors compétition, c'était vraiment le retour, entre guillemets, au festival, tout le monde s'embrassant, tout le monde essuyant une larme, parce que c'est ce qui se passe à la fin d'un film comme ça, lorsque la lumière revient, chacun regarde si ses lacets sont bien faits, plus qu'autre chose, sauf que à Cannes, on a envie de croiser les regards, de faire des câlins à Anouk Aimée, à Jean-Louis Trintignant, de prendre tout le monde dans les bras, parce que c'est ce qui sort de ce film, c'est l'amour, voilà, et la tendresse que l'on a envie d'échanger. Et en effet, lancé comme ça du balcon, comme une espèce de rumeur, qui monte comme ça, ce qui redonnait la chair de poule une deuxième fois, hein, franchement, sincèrement, hein, c'est très très fort. On va parler de ses plus belles années d'une vie et du cinéma de Claude Lelouch. Mais d'abord, avez-vous tout appris sur Claude Lelouch?
Tout.
Concentration. Claude,
même plus.
Vous ne dites rien. Il et elle doivent trouver pourquoi Claude ne peut plus tourner un film qu'il a écrit l'an passé. Il a écrit un film l'an passé,
Parce
il ne peut pas le tourner.
C'est trop tard pour lui, c'est plus d'actualité.
Non.
Les gens sont morts?
Non.
Les gens sont...
Il a écrit
c'est
un film.
C'est bien, t'es de bonne humeur toi aujourd'hui.
ça arrive tous les jours.
Non. Il a écrit un film.
Ça s'est déjà
passé.
Notre-Dame.
Non.
Ça s'est déjà passé.
Pas bête, mais c'est pas ça. Non.
Pas mal.
Pas bête.
Par rapport aux équipes techniques.
Pas bête, mais en tout cas,
Il n'y a plus quoi.
Exactement, il n'y a plus quelque chose.
Donc, le producteur est en prison?
Non. Ça, c'est pas. Si on devait s'arrêter de faire du cinéma pour ça, on s'arrêterait pas.
Il n'y a plus un. Non, c'est pas la maison.
Non.
La maison. Le jardin, la nature.
Il a écrit le film l'année dernière et il ne peut plus.
Le scénario, il l'a perdu.
Exactement, on lui a volé.
C'est vrai, ça a été horrible cette histoire.
On me l'a volé. Et on m'a volé.
L'ordinateur avec plein de choses dedans aussi.
Il y avait tout, il y avait l'ordinateur, il y avait la sécurité, il y avait. Et puis surtout, j'avais deux sacs. Un sac dans lequel il y avait le film prêt à tourner et un autre sac où j'avais amené toutes mes notes depuis 50 ans. Je note tout. Tout, des dialogues, des phrases, des observations. Comme je nourris mes films de mes observations, de ce que je vois, des gens que je croise, on m'a volé deux sacs où il y avait toute ma vie.
Alors pardon, mais ça ne sert strictement à rien à celui qui l'a volé, parce qu'il peut rien en faire. Vous avez lancé un appel en disant rendez-moi, gardez ce qu'il y a de précieux, c'est pas le problème. Mais
j'ai mis une petite étiquette avec votre nom et votre téléphone.
Si, il y avait tout. Oh là là, il y avait sur le sac, il y avait le nom, l'adresse, il y avait tout ce qu'il fallait pour me retrouver, c'était facile. Et c'est d'autant plus fou que je suis descendu de ma voiture. J'arrivais de la montagne où j'avais été travailler justement pour finir ce film qui va s'appeler un jour, j'espère, oui et non, qui sont les deux mots les plus utilisés par l'humanité. Donc j'avais travaillé sur ce film qui était un film important. Je descends de ma voiture, j'ouvre le coffre, je descends mes deux sacs, je fais le tour de la voiture pour voir si tout va bien, je reviens et les sacs avaient disparu.
Ah donc vous étiez là en plus? Ah oui, d'accord.
J'ai rien vu. J'ai lancé un appel pour, évidemment, j'ai dit au gars qui garde ce qu'il y avait dans le sac.
Ouais, qui a même l'ordinateur, mais au moins qui met tout sur
le monde. Mes notes,
l'argent, la drogue,
regardez. Et j'ai pas eu de retour. Alors, c'est fou, la contrainte sollicitant l'imagination. Oui. C'est à cause de ça que je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, j'ai fait deux films dans l'année, voilà.
C'est plutôt pas mal, en fait, la fin de l'histoire.
Faut prendre le bon côté des choses. Oui. Et est-ce que vous êtes fataliste au point de vous dire si on me l'a volé, c'est que je devais pas le faire?
Oui, j'ai tout de suite dit, c'est ma devise depuis 50 ans, je pense que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, même si sur le moment c'est cruel, surtout quand c'est cruel. Mais il faut essayer de trouver la raison.
Et d'ailleurs, on tire plus souvent des enseignements des échecs ou de ce qui est cruel que des bons moments.
C'est la fameuse vertu des impondérables. C'est-à-dire, je crois aux catastrophes, je pense que les catastrophes nous permettent de casser nos habitudes, de faire des changements. Notre-Dame a brûlé, elle n'était pas contente qu'on fasse simplement du rafistolage. Elle voulait un grand...
C'est quand même bizarre de voler quelque chose comme ça qu'on ne peut pas utiliser, de se rendre compte que c'est du matériel un travail, que c'est pour Claude Lelouch, pas se débrouiller pour le rapporter.
Sincèrement, je pense que c'est plus bête que ça. Ouais. Ce même genre d'anecdote m'est arrivé avec une espèce de cartable que j'avais eu le tort de laisser sur la banquette arrière de la voiture. Donc évidemment, vitre cassée, sac volé. Et en fait, il n'y avait rien de précieux dedans, à part peut-être, je sais pas, une espèce de tablette quelconque. Mais d'un coup, je me suis mis, je ne sais pas pourquoi, là aussi, il faut croire dans des espèces d'étoiles, parce que dedans, il y avait vraiment des photos de mes parents, il y avait des trucs, des objets auxquels je tenais intime et personnel, et je me suis mis à courir dans une direction, va savoir pourquoi, mais dans cette direction-là, et j'ai commencé à voir un petit papier volé, j'ai reconnu un brouillon qui... Et en fait, plus loin, dans une espèce de fossé caniveau, jeté... Le mec avait jeté les affaires, et j'ai pu récupérer tout ce qu'il y avait de personnel, et donc de totalement inutilisable. Et pour vraiment aller au bout d'anecdote, il y avait deux billets pour un concert de Madonna le soir même à Bercy.
Qui était là.
Et ben non, mais donc le mec il s'est dit je vais aller voir Madonna. Le seul problème c'est que les places sont numérotées. C'est comme ça qu'on l'a gueulé.
C'est génial. C'est-à-dire,
je savais qu'il y avait les places de Madonna.
Plus tard, tu jettes merde des places de spectacle dans ton sac quand tu te le fais voler. Comme ça, tu peux le récupérer le soir.
Et donc,
c'est comme ça qu'on a retrouvé Christophe de Chavannes. On se demandait où il était, mais puis qui allait.
Tiens, puisqu'on en était aux citations et aux phrases de Claude Lelouch, finissez la citation de Claude Lelouch à propos des femmes. Il dit « Les femmes sont des hommes
comme,
et d'ailleurs
qui s'ignorent. »
Non,
comme les autres.
C'est un mot, un adjectif.
Les hommes.
Les hommes sont des. Les femmes sont des
hommes. Les
hommes
forts.
Non.
Doux, amputés.
Sensibles.
Non. Les femmes sont des hommes.
Comme les autres.
Doux.
Non.
Généreux.
Non, c'est un mot.
Sans poils.
Un adjectif.
Ouais.
Féminin.
Non, sont des hommes, c'est l'adjectif.
Masculin, ça sent
fragile.
Non, fébrile. Les femmes sont des hommes
cultivés.
Ah, vous n'avez pas trouvé,
courageux.
Je suis ravi. Ah, non,
courageux,
vous n'avez pas trouvé, je suis content.
Combatif.
Ah, j'adore quand vous trouvez pas.
C'est positif, donc
c'est
forcément
très positif.
Parce que Claude aime les
femmes.
Non, c'est un adjectif.
Ah oui.
Attends.
Non, les femmes sont des hommes réussis.
Ah oui, ah, fini, ouais. J'aurais dit, mais
oui.
Non, c'est joli, c'est joli.
Et
vous dites,
vous draguiez même... qui à l'époque pour
dire ça? Toutes les femmes.
Non, mais je dois tout aux femmes. Elles m'ont tout appris, elles m'ont construit, elles m'ont fabriqué.
Elles vous ont mis au monde déjà.
Hein?
Déjà, vous mettre au monde, c'est la première chose.
Et puis,
c'est votre moteur.
Elles m'ont, je sais pas, enfin, elles m'ont plus intéressé, passionné que les hommes. Et donc, je pense que pour moi, c'est vraiment. Bon, elles sont pas parfaites, mais elles sont plus réussies que nous.
Et vous dites. C'est formidable. C'est la dernière invention de Dieu. Et d'ailleurs, il s'est beaucoup plus appliqué pour la femme que pour l'homme. J'adore.
Oui. Non, mais c'est la vérité. Je veux dire que j'ai eu la chance de connaître un certain nombre de femmes. Et donc elles m'ont.
Et c'est pas fini, Claude.
Et c'est. J'aime beaucoup la dernière. Comme disait Sacha Guitry, le plus dur, c'est de trouver sa veuve. Alors, à l'âge que j'ai maintenant,
Salue Valérie.
C'est Valérie Perrin qui a beaucoup travaillé avec moi sur le dernier film.
Qui
est un auteur de livres absolument incroyable et qui vient de faire deux best-sellers. Voilà, donc je suis très fier. Voilà.
Un jour, Claude Lelouch accueille Charlie Chaplin au Club 13, dans son cinéma, pour une projection. Que fait Charlie Chaplin?
Il s'endort. Les toilettes.
Non, il lui donne quelque chose.
Une canne ?
Non.
Un chapeau ?
Non.
Un bonbon ? Sa moustache ?
Non.
Un livre ?
Non.
Sa femme ?
Un film ? Non. Un film de lui ?
Non.
Un enfant ?
Non.
C'est une bonne idée.
Il lui donne de l'argent pour payer sa place ?
Exactement. Il lui donne 10 dollars de pourboire, il vous a pris pour un ouvreur.
Ah, c'est bon ?
Oui, oui, il a cru que... Quand j'ai appris que Chaplin arrivait chez moi pour voir un film, j'ai mon cœur qui s'est mis à battre. Je veux dire que s'il y a quelqu'un vraiment...
C'était un roi New York, hein, c'est ça ?
Hein ?
C'était un roi New York.
Et donc, je suis allé l'accueillir. À l'époque, il ne pouvait plus marcher. Et donc, je l'ai porté dans mes bras jusque dans la salle de projection. Et j'avais Chaplin contre moi. Et puis, quand je l'ai posé dans la salle de projection, il a sorti 10 dollars de sa poche et a cru que j'étais le portier.
Voilà. C'est génial. Le porteur.
Non, j'ai rendu les 10 dollars. Ah ouais. Non, je voulais quand même pas. Je lui ai dit, non. Mais c'était magique, magique, magique. Et alors après, parce que c'était sûrement...
Moi, je les aurais gardés et encadrés.
Je pense que Chaplin devait être aussi un grand faux cul, comme tous les cinéastes.
Il est parti en marchant.
Non. Alors, je suis revenu à la fin de la projection. Il était venu voir Un roi à New York, une copie restaurée, et il m'a pris dans ses bras en me disant « J'ai vu trois fois un homme et une femme ». Donc on avait dû lui parler entre-temps.
Très bien. Quel est le plus mauvais acteur que Claude Lelouch a dû diriger dans sa carrière ?
Lui-même ?
Jean Dujardin ?
Plus mauvais acteur.
Mais c'est un vrai nom ? C'est quelqu'un qu'on connaît ?
Ou c'est un enfant ?
Ah, voilà.
Non. Un enfant ?
Non.
Un animal ?
Giscard d'Estaing.
Un animal ? Non.
Un homme politique ?
Chirac, mais qu'est-ce que vous avez ?
Non.
Quelqu'un de sa famille ?
C'est un nom, c'est un emploi que je vais vous demander. C'est quelqu'un ?
Un animal.
Un figurant.
J'ai pas compris la phrase.
C'est un emploi. C'est quelqu'un qui, dans la vie, a un métier. C'est pour ce métier-là qu'il a été pris.
Un cascadeur, un cafetier.
Un assureur.
Un dentiste.
Un douanier.
Non. Ah, pas loin.
Oh. Un policier.
Un gendarme.
Pas loin.
Un militaire.
Un garde de chasse.
Oui.
Un militaire.
Oui, un militaire.
Et il était mauvais ?
De l'armée de l'air, c'est ça ?
Oui. Alors, quand j'ai fait mon service militaire de 57 à 60, là, il y avait la guerre d'Algérie, donc j'étais au service cinéma des armées, et évidemment, je faisais des films, et les acteurs qu'on me donnait étaient des militaires. Et ce lieutenant-colonel était très mauvais.
Ah.
Très, très mauvais, et c'est parce qu'il était mauvais que j'ai compris ce qu'était la direction d'acteur. Je veux dire que si j'avais fait mon premier film avec Jean Gabin, j'aurais rien appris. J'aurais dit moteur et c'était bien.
Mais quand on a un acteur mauvais, on a beau être bon directeur, on ne peut pas en tirer des qualités.
Alors j'ai découvert que il était très bon pendant les répétitions, était très mauvais au moment du tournage.
Donc c'est le trac.
Donc je lui ai fait croire qu'on répétait tout le temps, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu bon. Voilà.
C'est comme Nagui, il est bon en rantaine. Hein. Mais là...
Avec quel acteur aujourd'hui disparu, Claude Lelouch aurait aimé tourner ?
Ben Gabin ?
Johnny Hallyday.
Non. Michel Simon.
Non, il a tourné avec Johnny, je présente. Non.
Français ?
Ouais. Vous moquez souvent de mes imitations, mais si je vous fais un truc, vous allez tous trouver à une vitesse folle.
Bonville.
Pas loin.
De Funès.
Exactement.
De Funès.
Louis de Funès.
C'est un génie, ce mec.
Comment est-ce possible que vous n'ayez pas pu tourner avec lui ?
Bah écoutez, moi j'ai...
On a l'impression que personne ne se refuse à vous.
C'est plus qu'un acteur, je veux dire que c'est un génie total. Et c'est vrai qu'un jour on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble et on a évoqué la possibilité de faire un film ensemble. Alors il me dit, si on fait un film ensemble, ça sera plus un film de Funès ou un film de Lelouch ?
C'est malin, non mais c'est malin, c'est vrai.
C'était très malin, il avait raison. Alors je sais pas, je ferai la première mi-temps, on ferait la deuxième mi-temps, voilà.
Il avait raison. Et qu'est-ce qui a fait que finalement vous n'êtes pas allé au bout du projet ?
C'est tout simplement parce que je cherchais un scénario formidable. J'ai dit, si on va voir de Funès, il faut venir avec des munitions, quoi. Après tout ce qu'il avait fait, je me suis dit... C'est comme il y a certains acteurs, Depardieu, si on va voir ces gens-là, il faut venir avec vraiment un scénario extraordinaire. Donc je travaillais sur un scénario et j'ai failli aussi faire un film avec Gabin, qui était aussi un de mes rêves. J'aurais adoré faire un film, j'avais un scénario formidable avec Gabin. On n'avait pas trouvé la fin et puis il est mort entre-temps. Voilà. Donc j'ai pris Michel Morgan, qui connaissait très bien Gabin et avec qui on a fait un très beau film.
Vous aviez un peu de Gabin avec la présence de Michel Morgan dans son regard.
Et Reggiani.
Voilà. Parlons donc de ces plus belles années d'une vie. Le film est sorti la semaine dernière. C'est un film absolument formidable dont on ne sort pas indemne, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que on a notre part d'humanité, d'amour qui est forcément grandie parce que cette histoire, elle est incroyable. Alors comment est née non pas l'idée de tourner un homme et une femme qui s'aiment, et Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant, mais l'idée de mélanger 50 ans après, non seulement les histoires, non seulement de revenir sur cette histoire d'amour, mais de mélanger aussi le cinéma d'il y a 50 ans avec le cinéma d'aujourd'hui.
Alors encore une fois, le hasard dans ma vie a eu beaucoup de talent, et donc quand on a fait la copie restaurée d'Un homme et une femme, pour les 50 ans d'Un homme et une femme, j'ai invité Jean-Louis, Anouk, Pierre Barou et Francis Lay, qui étaient encore vivants, à voir la copie restaurée. Ils n'avaient pas vu le film depuis 50 ans.
Le carré magique, donc
On était à l'Arlequin à Paris, où on avait fait une petite fête, et puis pendant la projection, évidemment, moi, j'ai pas regardé le film que je connaissais par cœur, j'ai regardé Jean-Louis et Anouk qui étaient assis côte à côte et qui se regardaient 50 ans plus tôt. Et pendant la projection, je les voyais se pencher l'un vers l'autre, se prendre la main, discuter, rire. Et j'avais peur que ce film leur fasse peur. Je me suis dit, les années ont passé, il y a des rites qui sont là, qui n'étaient pas là. Mmh. Et de les voir s'amuser du temps qui avait passé... Pendant toute la projection, je dis, mais il faut absolument que je filme ce que je suis en train de voir. Merci la vie, merci le temps qui passe, merci les emmerdes, merci. D'un seul coup, il y avait un message d'espoir qui passait. Et à la fin du film, donc, je dis à Jean-Louis, tu sais, écoute, ça serait formidable qu'on puisse faire un épilogue, qu'on fasse, voilà, même un court-métrage, simplement 20 minutes, tu vois, vos retrouvailles. N'allons pas au Leibniz, non, tu sais, j'ai décidé d'arrêter de tourner, je veux plus tourner, je viens de faire le film d'Anneke, il était donc très, très négatif. Il me dit, je commence à plus voir, j'ai du mal à marcher, ça va être très dur pour moi, et j'étais triste qu'ils me disent non, Anouk, je lui en parle, elle me dit oui, ça serait bien, parce que Anouk me dit toujours oui, etc. Et puis trois ans sont passés, et un matin, encore une fois, le jour où on me vole mes affaires. Le lendemain matin, j'étais à mon bureau, un orphelin de scénario, et je tombe sur l'assistant de Jean-Louis, il était 8h du matin, qui allait prendre un café. Je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis avec Jean-Louis, il est à Paris, oui. Il est à l'hôtel, là, au bout de la rue. Je dis, il faut absolument que j'aille l'embrasser. Et je vais voir Jean-Louis, et je vais embrasser Jean-Louis, qui me reçoit dans sa chambre, dans son lit, comme Louis XIV. On s'embrasse et je sens qu'il m'embrasse avec une ferveur qui fait du bien. Vous savez, il y a des câlins plus chaleureux que d'autres. Il y a des jours où on se dit, tiens, c'est pas du chiquet. Et je lui dis, écoute, t'as vraiment pas envie qu'on remette ça. Tu te rends compte que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'un metteur en scène peut retrouver ses acteurs 53 ans après pour la même histoire. C'est formidable de faire. Il me dit, écoute, Claude, il faudrait que tu aies une bonne idée. Je lui dis, écoute, l'idée, elle est toute simple. Il y a quelques années, j'étais très, très proche d'Annie Girardot, avec qui j'ai eu une très belle histoire devant et derrière la caméra. Et un jour, elle a eu la maladie d'Alzheimer et sa fille est venue me voir en me disant, écoutez, Claude, la seule personne dont elle se souvienne, c'est vous. Ça serait formidable que vous alliez la voir. Et donc, je suis allé voir Annie et ces 2 heures que j'ai passées avec Annie, c'est les 2 heures les plus merveilleuses et les plus incroyables que j'ai vécues de ma vie. Et j'ai dit...
Il y a même une scène, ou en tout cas une espèce de mécanique de scène que vous faites jouer à Jean-Louis Trintignant qui vous a été inspirée de cette rencontre, c'est-à-dire celle de commencer à parler et d'un coup de poser une question.
Voilà. Et donc, je suis parti de cette rencontre avec Annie. Et je parle de ça à Jean-Louis et il me dit, écoute, oh, c'est formidable. Allez, banco, on fait le film. Donc il me tape dans la main.
Vous voulez pas raconter la scène avec Annie, ce qui s'est passé dans votre...
Avec Girardot.
Quand elle vous parlait.
Oui, alors d'abord elle m'a reconnu. Elle m'a serré dans ses bras, très fort. Et puis à un moment donné, elle me dit, qui vous êtes?
C'est ça. C'est ça qui...
Donc dans la seconde même... elle était passée à autre chose. Et donc, je lui dis, je suis Claude Lelouch. Mais je t'ai aimé à la folie, je t'aime à la folie. Donc, il y avait des allers-retours incroyables.
C'est bouleversant.
J'ai vécu les 2 heures les plus incroyables de ma vie. Je savais plus où j'étais. Et d'un seul coup, elle me parlait de la vie. On m'avait jamais parlé de la vie comme ça. Et je me suis dit, grâce à cette rencontre, j'ai la possibilité de mettre dans un film, de parler des choses essentielles. Quand on était jeune, on était dans la séduction. Et puis d'un seul coup, à cet âge-là, on est dans l'essentiel. Le temps qui passe, il n'a pas que des inconvénients. Cette ligne d'arrivée vers laquelle je suis en train de me rapprocher, elle me donne envie de courir encore plus vite. J'ai une boulimie de cinéma comme j'ai jamais eu, et j'ai tellement envie de faire aimer la vie aux gens. J'en veux tellement à tous ceux qui essaient de nous faire croire que la vie est une saloperie. C'est pas vrai. Si on se donne tant de mal pour vieillir, mourir si tard, c'est que la vie est un truc formidable. Et surtout, ce qui est formidable dans la vie, c'est le présent. Je veux dire, c'est la seule chose qui nous appartienne. C'est la seule chose qui n'a pas le temps de vieillir. Donc j'avais envie de filmer le présent. Et je me dis, le présent, on peut le filmer avec des gens qui sont dans l'essentiel. Donc, quand j'ai parlé à Jean-Louis, je lui ai dit, on va faire un film sur le présent. En plus, à l'âge que tu as, je peux tout te faire dire.
C'est vrai.
Même des conneries. On peut plus te critiquer.
Ce qu'il dit à Marianne Denicourt, par exemple.
Il lui demande toujours s'il peut coucher avec elle. C'est un éternel séducteur. C'est un coureur d'automobile qui court toujours après les femmes et qui peut dire, moi, si j'étais riche, je ferais pipi toute la journée.
Oui,
la bouche de Trintignant, mais c'est fabuleux, en fait. Ça a l'air comme ça une coquette.
Il y a des fous rires dans les salles, absolument incroyables. Les gens rient, s'amusent. et c'est vrai que c'est un film qui est solaire grâce à Jean-Louis qui joue avec sa voix. Il a une des plus belles voix du monde.
Ouais. Enfin, je veux dire. Non, et puis vous parlez de séduction. On passe sa vie à séduire. Les deux, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, ont des regards l'un vis-à-vis de l'autre. Ont un jeu de séduction. Sont absolument charmants, mais charmants au sens envoûtant.
Mais oui, mais ils sont encore plus sexy qu'avant.
Ouais.
Je veux dire que les rides.
Et pourtant ils étaient beaux.
Oui, et puis ils ont plus peur de rien.
Alors, est-ce que vous avez eu peur justement de juxtaposer? Et c'est une réussite, hein, sincèrement, Claude. Je vous dis, c'est une réelle réussite de juxtaposer des images d'il y a 50 ans avec celles d'aujourd'hui. Je vais vous dire une phrase que m'a dite Dominique Farrugia. On sortait de la projection de votre film à Cannes et on est dans les coulisses du palais, tous les deux, Dominique et moi. Dominique s'apprêtant à aller à une fête cannoise. Nous retournions dans une salle voir un autre film. Et là, donc, on papote. Et je lui dis, il est dingue ce film. Quel est ton on parle ce qu'on vient de faire là maintenant. Je dis, mais toi, réalisateur, qu'est-ce que tu me dirais? Et je lui demandais autorisation de répéter cette phrase aujourd'hui au micro. Il me dit, on se rend compte à quel point le cinéma de Claude Lelouch aujourd'hui, sa réalisation, sa manière de filmer est extrêmement actuelle. Mais surtout, on se rend compte qu'elle était extrêmement moderne il y a 50 ans. Et c'est pour ça que les deux se marient sans être choquantes. C'est-à-dire, on se dit pas, il y avait un coup de mou, il était speed, il est moins, et ceci, cela. Les deux vont extrêmement bien ensemble. Donc voilà, c'était un compliment.
Ça me fait chaud au cœur parce que c'est vrai que
c'est un défi, hein, de coller les deux images comme ça,
oui,
les deux réalisations.
Parce que c'est comme regarder un album de famille. On se dit, regarde, là, c'est le jour de ma première communion, etc. Bon, on se voit, on se reconnaît ou on se reconnaît pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les plus belles années d'une vie sont définitivement celles qu'on n'a pas vécues. Le présent est tellement plus fort que le passé. Le passé, c'est
mais
comme si on prenait un bord dans ses bras.
Le risque qu'une image, qu'un cadrage, qu'un rythme, qu'un jeu soit éculé, soit voilà, il y a même des films que l'on adore tous et qu'on revoit, on se dit ouais, ça a pris un petit coup, ça a pas bien vieilli. Là, vous redonnez un coup de jeunesse au film d'il y a 50 ans. Ouais. Vous renforcez évidemment vous donnez de l'étoffe au film tourné aujourd'hui, et les deux vont extrêmement bien ensemble, y compris d'ailleurs les allers-retours entre les visages. Oui, le visage buriné de Jean-Louis Trintignant et d'Anouk Aimée est touchant, mais ils sont, comme le disait Léla, ils étaient merveilleux, c'était deux canons quand même.
Vous avez dû tomber amoureux de tous les deux en fait en les filmant,
oui,
c'est pas possible.
La troisième mi-temps, parce que il y a très peu de gens qui ont droit à une troisième mi-temps, et donc c'est cette troisième mi-temps que j'ai essayé de filmer, peut être une récompense ou une punition.
C'est ça.
Et là, dans le cas qui les concerne, c'est une récompense. Ouais. Je veux dire que les années, le passé, c'est comme le bon vin, quoi. Quand la qualité est là, voilà. Et donc, c'est vrai que je me suis amusé avec ce film. En plus, j'ai voulu remettre cette traversée de Paris, où on traverse Paris à 200 à l'heure.
Elle est dingue.
Parce que c'est la métaphore du temps qui passe. Mmh. Je dirais qu'on n'a pas le temps de voir les choses, et puis ça nous permet... Ça reste aujourd'hui la cascade, un plan séquence de 10 minutes. C'est la seule cascade au monde sans trucage. Donc, j'avais envie que de... revisiter cette cascade et cette traversée de Paris à travers le passé.
Puisqu'on parle de plan séquence, le film ouvre sur un plan séquence aussi sur le visage de Jean-Michel Trintignant qui lui aussi va marquer à sa manière l'histoire du cinéma parce que c'est bouleversant et on comprend tout pendant ces premières minutes. Je sais pas combien de temps on dure ce premier plan sur Jean-Michel Trintignant, mais il est bouleversant, totalement bouleversant.
Enfin, vivement la troisième partie dans 50 ans.
C'est un film que vous devez absolument voir, Les plus belles années d'une vie, qui est déjà sorti au cinéma avec Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt, Swad Hamidou, Antoine Thierry. Là, sont les enfants en fait que vous avez retrouvés.
C'est
réellement.
Les vrais.
Ouais, c'est ça qui est
les vrais enfants qui ont aujourd'hui.
Ils ont leur âge.
Voilà. Ils ont leur âge.
57 ans, quoi.
Et c'est le. C'est encore une fois la boucle du film, puisque c'est grâce à cette rencontre des parents que les enfants se découvrent.
Eh oui, eh oui.
Jean-Jacques Lang, c'est un succès, évidemment, ce film.
Très cher Nagui.
Il faut le voir.
Bien sûr. Comme vous, dès la première scène de retrouvailles entre la merveilleuse Anouk Aimée, tout en nostalgie d'où sa mère, et le formidable Jean-Louis Trintignant, d'une vibrante fragilité, j'ai été remué, retourné, touché, troublé, impressionné, émotionné, bouleversifié, renversé.
On a compris.
Et comme, je vous le dis en toute humilité, comme je suis doué d'un sixième sens qui me laisse entrevoir ce qui va marcher à donf dans tous les domaines artistiques, et comme Les plus belles années, le film est déjà en salle, je peux vous dire que ça marche. Mais je veux rappeler que c'est moi qui, déjà, en 1966, avant tout le monde, avait prévu le succès de Un homme et une femme.
Ah bon, déjà.
Et ce fut encore, oui, ce fut encore Bibi qui, le premier, chantonna Shabadabada, Shabadabada, contribuant à faire de cet air un énorme tube encore sur toutes les lèvres. Toujours doué de cette extra lucidité, j'ai donc la certitude que le public, après avoir entendu vos commentaires aussi concis que laudatifs, Nagui Chéri, oui. J'ai la conviction que le public, mouchoir et Kleenex à la main, mon cousin, va continuer à foncer voir Les plus belles années. Alors, j'évoquais à l'instant les années 1966. Je sais que pour certains, assis à cette table, cette année-là remonte à la préhistoire. Eh bien, je peux vous dire que 53 ans après cette année, que mon cousin et moi, cousin Jacques et moi, avons bien connu, comme vous, cher Claude Lelouch, 53 ans après, nous nous sommes jamais sentis aussi Jones. Alors pour cela, nous avons des secrets beauté rajeunissement que je suis prêt à vous confier.
Des crèmes ?
Caro Nagitomio. Oui, attendez, bien que vous soyez doté, vous, Nagui, d'un indéniable physique de radio, et si je sais, je dirais même d'un physique de presse écrite, je sais que vous souhaitez retarder les effets de l'irrévocable décrépitude qui guette, hélas, tous les animateurs. Donc, quelques conseils anti-âge.
Vas-y.
Chez Zouzou Coiffure.
Je vais noter, oui.
Mon salon. Demandez à Jean Filou, mon capilliculteur paysagiste, un lissage brésilien rajeunissant avec pigmentation des racines à l'encre de sèche. Regardez comme ça réussit à votre ami Patrick Sabatier, à qui vous devez tout. Et donc.
Et pas l'inverse.
Il sera toujours temps ensuite de recourir comme moi à un lifting cervico-temporal doublé d'une lipectomie du côte poulet avec injection de colle à bois pour durcir l'ensemble. Le tout complet était, et ça je vous le conseille, un regonflage des lèvres, un rembourrage du fessier et un anal bleaching. Alors on se retrouve dans 53 ans. Bonne émission.
Merci Albert Ali.
Nagui, la bande originale.
Shabadabada.
Non, c'est Tabadabada.
Dabadabada, parce qu'il se catait à l'époque. Ouais.
La question, Claude Lelouch, c'est avez-vous eu une inquiétude en faisant ce film ? Est-ce que vous vous êtes posé des questions ? D'abord, est-ce qu'il était, comment dirais-je, scénarisé, storyboardé, écrit plus que tous les autres que vous ayez pu faire avant ?
J'avais très peur, parce que il y avait mille raisons pour ne pas le faire. Et mille raisons pour le faire, parce que, encore une fois, ça a été un match entre ma part de rationnel et ma part d'irrationnel. Je veux dire que...
Ça, c'est le résumé de votre vie, ça. Hein.
C'est une dualité permanente. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais plus confiance à ma part d'irrationnel qu'à mon intelligence, qui a trop le sens des affaires, qui est trop pragmatique, qui pense trop à la fin de mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma part d'irrationnel m'emmène là où j'aurais pas le courage d'aller. Je veux dire que il y a dans l'irrationnel du courage, il y a une provocation qui me plaît de plus en plus. Voilà. Et donc, ma part d'irrationnel rationnel me disait, il faut le faire. Et mon rationnel me disait, qui va aller voir ce film? Qui connaît encore ces deux personnages? Encore que, depuis 50 ans, ce film a été vu et revu sur toutes les télévisions du monde, et on peut dire aujourd'hui qu'il y a 1 milliard de gens qui ont vu ce film. Donc, c'est ce milliard qui m'a décidé, je me suis dit, ce film m'appartient plus, il appartient au public, et à travers la mémoire du public, je vais faire un film sur la vie, sur cette vie que j'aime.
Donc, vous l'avez écrit, les dialogues sont écrits.
C'est très écrit. Voilà. C'est un film
très... Est-ce que c'est le plus écrit de tous vos films?
C'est peut-être le plus écrit de tous mes films. Je l'ai écrit aussi avec ma femme, Valérie Perrin, puisque j'avais très envie de cette patte féminine dans le film. Et en même temps, on s'est offert des grandes séances d'improvisation, comme toujours, puisque mon cinéma, c'est un peu comme le jazz, oui. Quoi. Il y a le thème et puis ce qu'on peut en faire. Je veux dire que la musique est très importante dans mes films, et c'est vrai que il y a ce qu'on dit et ce qu'on pense. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on pense. Il y a ce qu'on a envie de dire aux gens et ce qu'on leur dit. On va à un rendez-vous, tiens, je vais leur dire ça, ça et ça. Et puis dès qu'on est en face d'eux, d'un seul coup, ils ont une sale gueule. La femme arrive avec 20 minutes de retard. On n'a plus envie de lui dire qu'on l'aime. Voilà. Et donc, d'un seul coup, les dialogues changent. Et encore une fois, c'est à la force du présent qui, au dernier moment, nous dit vraiment ce qu'on est. Il y a une sincérité. En fait, j'ai essayé... depuis 50 ans, d'être le metteur en scène de la spontanéité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la vérité, personne ne la détient. Personne. Mais les moments de spontanéité, ce sont ces petits parfums de vérité. La spontanéité, c'est un mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Quand on est spontané, on peut tout dire, même des conneries. Et ce sont ces conneries que j'ai voulu que Jean-Louis dise.
Il y en a quelques-unes qui sont belles. Et puis il y a des scènes extrêmement drôles, notamment avec le contrôle de police en deux chevaux. Ça c'est des bons moments de balade en voiture. Mais allez le voir, vous comprendrez. C'est pas possible de le raconter. Claude Lelouch, est-ce que vous saviez lorsque vous tourniez une scène qu'elle serait prise entre deux flashbacks ou deux autres scènes? Ou est-ce que c'est ensuite un travail de monteur, réalisateur?
Non, j'avais prévu ça sur le papier.
Et les acteurs le savaient aussi que ça venait après tel ou tel moment?
Pas trop. D'accord. Pas trop. J'avais envie que les acteurs soient vraiment dans la vie. Je voulais pas que... J'avais vraiment envie de filmer un homme et une femme, pas un acteur et une actrice. J'avais envie de filmer la vie au plus proche. Vous savez, c'est 60 ans de boulot pour filmer la vie. C'est-à-dire que la vie... elle intervient, elle fait de la mise en scène dans toutes nos vies. Il y a aujourd'hui 7 milliards de gens qui ont le rôle principal de leur vie. Il y a 7 milliards de gens qui font de la figuration pour eux. Et la vie peut intervenir à tout moment dans le scénario de toutes nos vies. Je veux dire qu'elle peut à tout moment d'abord interrompre l'histoire,
clairement,
la contrarier. Et c'est cette vie qui est extraordinaire que j'ai voulu mettre dans le film. J'ai voulu qu'à un moment donné, ils vivent ce moment-là et qu'ils ne le jouent pas. S'ils avaient joué ce moment, on n'aurait pas marché de la même façon, on n'aurait pas eu le sentiment que c'était notre histoire. Voilà. Et donc, Jean-Louis et Anouk ont joué le jeu. Par exemple, la grande scène où ils se retrouvent, qui dure 20 minutes dans le film, on l'a tournée en 40 minutes.
C'est-à-dire qu'on a dans le jardin?
Ouais. On a eu le temps de... Et je leur soufflais le texte.
Et pardon, et le nom de l'institut qui accueille Jean-Louis Trintignant?
La Maison de l'Orgueil.
Mais comment? Ouais, mais pourquoi vous êtes allé chercher ça? Pourquoi l'orgueil? Qu'est-ce qui vient faire
là-dedans? Parce qu'à partir d'un certain âge, la seule chose qui nous reste, c'est l'orgueil. Je veux dire que quand
parce qu'on est d'accord, elle n'existe pas cette maison.
Non,
vous l'avez baptisée comme ça.
Non, je l'ai complètement construite. La maison de retraite a été entièrement construite pour le film.
Non, et donc le nom d'Orgueil, c'est...
Oui, alors c'est parce que ça a été construit dans un chemin qui s'appelle le chemin de l'Orgueil. Et donc c'est le chemin de l'Orgueil qui m'a donné l'idée de l'appeler le domaine de l'Orgueil.
Encore un signe. Et donc vous avez tourné cette scène qui dure 20 minutes, vous l'avez tournée en 40 minutes.
En 40 minutes. Comme une espèce d'urgence. Deux fois.
Ouais.
Le temps de la faire deux fois et de leur souffler les textes. Pendant 40 minutes... on a vécu cette scène qui dure 20 minutes, puisque
cette fameuse scène où vous reprenez d'ailleurs votre rencontre avec Annie Girardot.
C'est la scène avec Annie Girardot.
C'est ça.
C'est complètement calqué sur les retrouvailles de Jean-Louis et d'Anouk.
On se parle, on se retrouve, je ne sais plus qui tu es. Et puis si je t'avais connu quelques années avant, je t'aurais
séduite.
Oui,
quand il la reconnaît, il reconnaît les détails les plus fous. Quand elle se passe la main dans les cheveux, et puis deux secondes après, il oublie tout. Donc,
mais ça, pardon, ça peut pas, ça n'existe pas dans un scénar. Le coup de vent qui vient barrer le visage d'Anouk Aimée d'une mèche et qu'elle remette sa mèche d'une manière extrêmement féminine et élégante sur le côté, ça vous l'aviez pas écrit.
Là, c'est le coup de vent qui est arrivé pendant le tournage.
On est d'accord.
Mais oui, mais vous savez, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le grand metteur en scène. Je ne suis que son stagiaire.
Voici Agnès Surstel.
Bonjour,
ça
bonjour.
Va, la belle.
Ça va, nous sommes fin mai. Ce qui signifie
merci,
malheureusement.
Merci, c'était Agnès.
l'info. Hein.
Toujours. Ce qui signifie malheureusement que c'est l'ouverture de la saison des festivals de musique et donc le déclin de l'humanité.
Mais ça va pas.
Ah non, c'est pas possible. Ah bah de toute façon, je suis arrivée ici dans un mode namasté en septembre. Je vais c'est finir vrai. Vieille réacte. De toute façon, je pense que c'est fait ça de passer un an à côté de Daniel. Mais c'est bon, ça. C'est la vie. Je suis même plus cynique. Je suis dépitée. Heureusement que je vous vois ce matin. Ça me fait beaucoup de bien, Claude. Les festivals de musique, vous savez, c'est ces endroits abominables où les gens sont ivres, hilares, torse nu, mi-rouge de soleil, mi-blanc poilu, vulgaire boule vanille fraise, boulimique d'avoir accès à autant de groupes de musique en si peu de moments de vie. Ils emmènent même avec eux leurs enfants qui n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à passer 6 heures sous des baffles diffusant les complaintes d'un chanteur fragile. Mais aucun souci, on leur a mis un casque aux petits. Ils adorent la vibe, ils adorent la foule, la bière. De toute façon, ils sont à Montessori, ils sont pisse. Ils sont surtout plus du tout dans leur poussette, hein, ma vieille. Dans un festival de musique, l'humain en couronne de fleurs perd au gré des décibels sa dignité, son langage, ses colères, mais aussi ses engagements politiques, hein, puisqu'après avoir voté Yannick Jadot dimanche, il va en 2 jours saccager des pelouses magnifiques, vomir sur des plantes et balancer des préservatifs dans les buissons, par exemple. Les festivals de musique qui pullulent d'ailleurs, un peu sur le même principe qu'une bonne vieille MST, t'es jamais au courant, mais il y a toujours un nouveau festival qui ouvre en bas de chez toi, comme si Solidays, Pete the Monkey, Hellfest, Rock en scène, je sais pas quoi, ça nous suffisait pas, faut toujours aller soutenir le copain qui monte un truc de musique urbaine à Paimpol, dans un parc à 8, tu vas voir, c'est dément, il y a la prochaine Angèle qui fait un rap féministe hilarant, on est entre Philippe Catherine et Jordan Bardella, viens, c'est le turfu, non, bah non, je ne viens pas. Je remarque juste que je ne peux pas dire de mal d'Angèle. C'est un peu comme si je disais du mal de Pierre Rabhi, je pense qu'il va m'arriver un retour de karma horrible, il va m'arriver, donc je dis pas de mal d'Angèle, ça,
on
c'est
ne touche pas possible. Angèle.
On peut pas faire ça, en fait. Non. Dans un festival de musique, tu te retrouves toujours sans réseau, sans tes amis, sans argent, parce que c'est cashless, allô, y a pas d'argent, cashless, c'est génial. Bloqué au milieu de 12 000 corps suants, devant une scène de tu ne sais même pas quel groupe, où tout le monde hurle à tue-tête des refrains où la grammaire française a mouru, par exemple, sur ton cœur, je fais trou de boulettes. Bah là, carrément, le verbe n'est plus un verbe et l'article indéfini a abdiqué, inutile. Faut aller directement à l'info capitale. Donc là, l'auteur PNL, c'est une métaphore pas vilaine, ça dit, c'est... Il a question d'amour, quoi. Marc Amic,
comment.
Dans un festival de musique, les toilettes sont bondées. C'est 2 heures de queue minimum quand tu es une jeune femme. Ouais. Pour finir par faire pipi sur la paille sèche, sans pouvoir t'essuyer, avec autour de toi des millénials surexcités en crop top et percés qui réfléchissent avec philosophie à leur place sur Terre. Ah non, mais moi, Aurel San, je le suce direct. Je l'adore.
Mais ça va
je ne peux pas. Moi, j'ai besoin de faire pipi dans le calme. Sinon, tu perds tout le plaisir du pipi. D'accord. Dans un festival de musique, au coin VIP, tu croises toujours des gars de 50 ans qui bossent dans la musique, en maison de disques depuis toujours. Ils ont plus de cheveux, mais ils ont des pulls à capuche, des converses et des bagues parce qu'ils refusent de vieillir. Et ce qui est génial quand tu les croises, c'est qu'ils font toujours tout ce genre qui détestent être là. Ils disent toujours « Ah non, mais cette année, c'est pourri, quoi. Franchement, on se marrait plus quand on était tous à l'héro. Hein. » Bah oui, Jean-Claude, bien sûr. Du coup, c'est décidé. C'est tellement anxiogène pour moi, les festivals, que j'ai décidé de me tester et d'aller encore plus loin. Voilà, je vous l'annonce. Cette année, je vais aller à Burning Man.
Mais non.
Voilà, parce que...
Tu reviendras pas.
Parce que voilà. C'est vrai que dans un festival de musique, tu croises toujours une pote un peu fly qui dit « Tu devrais tellement venir avec nous à Burning l'an prochain. » Je veux dire, l'année dernière, Seb a fait un trip au LSD. Depuis, il n'a plus peur en avion. Donc c'est vrai que là, cette année, à Vincennes, entre 2 stands de tchatchouka sans gluten, en attendant Aurel San sur la grande salle, sur la grande scène, bah, j'ai dit oui à Burning Man. Voilà, parce que je me rends bien compte que vous m'avez embauché pour être namasté et que je ne le suis plus. Donc je vais aller retrouver mon moi apaisé. Petite révélation mystique. Donc je casse mon PEL pour aller manger de la poussière au milieu de pyromanes, le zizi à l'air. Et j'espère que je reviendrai vraiment au cinéma Stéctoine avec
on tout. T'attend en tout cas. Ouais. Merci Agnès Surstel. La bande originale,
Nadi, sur France Inter. On veut des photos quoi.
La bande originale de la vie de Claude Lelouch, vie en cinéma mais vie en musique. On va commencer fin des années 30.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête.
1937. 37, Claude Lelouch, c'est votre naissance. Et dans, on parle de vous dans les interviews, vous racontez que vous étiez un enfant hyperactif et que la seule façon de vous apaiser, c'était de vous poser devant un écran.
Ouais. Et alors c'est drôle parce que mon père a acheté le 7e poste de télévision en France.
Donc ils étaient numérotés à l'époque. Donc, numéro 7. Voilà, et pas le numéro 13.
Voilà. Et donc j'ai grandi devant un écran de télé. Et
il avait acheté une caméra même à votre naissance.
Il avait d'abord acheté une caméra pour filmer ma naissance.
C'est fou, en 37.
Oui. Et donc la première personne que j'ai vue sur un écran, c'est
Drucker.
Moi,
effectivement.
C'était vous bébé sur un écran, c'est la première. C'est une des premières.
Oui, alors c'est.
Vous auriez pu choisir d'être comédien si la première image que vous ayez vue était la vôtre.
Oui, j'aurais pu, mais alors là, j'étais vraiment pas fait pour ça. J'avais trop l'esprit de synthèse.
À quoi ça se voit?
Ben ça on s'en est aperçu par la suite. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait faire devant une caméra, surtout dans mon premier film, Le Propre de l'Homme, que j'ai tourné en 60. Et comme j'avais des scènes qui se déroulaient dans la foule, j'avais décidé que je serais acteur pour être au milieu des comédiens et pouvoir les diriger pendant. Et très vite, je me suis aperçu que j'étais plus à l'aise derrière la caméra et qu'il fallait que j'ai la caméra et le microscope derrière moi.
Vous aviez déjà l'envie d'être au plus près des acteurs et de glisser des indications dans l'oreille pendant qu'ils jouaient.
Tout à fait.
Mais ça, c'est un truc qui... Pardon, mais je ne sais pas si d'autres réalisateurs font ça.
J'ai besoin de croire aux histoires qu'on me raconte. Je veux dire que j'aime...
Oui, mais généralement, pardon, les réalisateurs donnent des indications, tournent la scène, puis coupent, retournent voir l'acteur en disant « Alors, t'as fait ça comme ci, ça comme ça, ça va pas, fais-le plutôt comme ci, comme ça. »
Et il le laisse pendant qu'il tourne.
Et on recommence. Oui. Et on fait plusieurs prises. Mais vous, c'est pendant la prise que vous donnez les indications.
Voilà, moi, c'est pendant la prise que je peux modeler les acteurs. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration aussi pour des metteurs en scène comme Chaplin, qui sont acteurs, Woody Allen ou Jacques Tati, qui n'ont pas d'intermédiaire. Je veux dire qu'ils se dirigent eux-mêmes et ça donne des résultats absolument incroyables. Donc, moi, j'avais pas ce talent. J'ai essayé, je me suis dit, est-ce que je pourrais être un petit Chaplin?
En 1967, vous écoutiez Françoise Hardy.
Soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau, tu prenais du plaisir à faire tes ronds dans l'eau.
C'est une musique de film, ça aussi.
Magnifique.
Et on vous retrouve en 67, au Festival de Cannes. Vous faites partie du jury. Et là, envers du décor, on découvre qu'on fait un peu pression sur vous pour vous demander de voter pour Blow Up.
Oui, j'étais dans le jury et je m'aperçois qu'il y avait des tricheries. Je m'aperçois, moi j'ai adoré
des
un
tricheries
film.
Ou des pressions de lobbyistes.
Pressions de lobbyistes. Moi j'avais adoré un film qui s'appelait J'ai même rencontré des tziganes heureux, que je considérais comme un film révolutionnaire, et j'avais fait comprendre aux membres du jury que ça serait ma palme d'or. Ouais. Et donc Favre Lebret, qui était le président du festival de l'époque, m'a invité à déjeuner en me disant: écoutez Claude, l'année dernière vous avez eu la palme d'or, le festival vous a emmenez là où vous êtes aujourd'hui, et
je dois vous
avouer que j'ai promis la palme d'or à Blow Up. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Et il me dit, écoutez, si Cannes est un grand festival, un immense festival, c'est parce que je fais venir les plus grands metteurs en scène du monde. Et les plus grands metteurs en scène du monde, il faut leur promettre quelque chose. Et donc je tombe de ma chaise, je me dis, mais moi vous ne m'avez rien promis l'année dernière. Il me dit, oui, mais... Claude, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le metteur en scène qui a fait Blow Up est un immense, immense metteur en scène.
Antonioni,
c'est vrai que c'est un immense metteur en scène. Je lui ai dit, écoutez, mais je préfère quand même l'autre. Et comme j'ai pas voulu marcher dans cette combine, j'ai donné ma démission et j'ai quitté le jury.
C'est une première, ça, dans l'histoire de Cannes, de partir comme ça en cours de festival.
Oui. Alors, le festival a beaucoup changé. Hein.
Oui, c'est plus le cas maintenant.
Non. Aujourd'hui, Gilles Jacob a fait un grand ménage. Et c'est vrai que, mais ce qui a fait la force de Cannes, c'est
Et Thierry Frémaux,
voilà.
Enfin, il y a quand même Pierre Lescure, et là, on n'est pas rassuré. Voilà. Non, c'est quand même un voyou qui se cache derrière.
Mais vous avez été fidèle vous avez été fidèle aussi à votre intuition, c'est que vous avez démissionné, mais ensuite, vous avez racheté les droits de distribution de J'ai même rencontré des tziganes heureux.
Et je l'ai distribué.
Et ouais.
Voilà, et donc j'ai voulu aller au bout de cette passion, et j'ai dit, je peux pas défendre ce film, mais je vais le défendre dans les salles. Voilà, donc j'ai été au bout de l'amour que j'avais pour ce film.
1972, vous écoutiez.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports.
Et on vous retrouve en 72 avec L'Aventure, c'est l'aventure, Ventura, Brel, Machon.
Des copains, mais des copains d'abord, c'est le sentiment qu'on a.
Oui, c'est pour ça que Brassens, la chanson de Brassens,
colle bien à ce moment-là.
Elle collait formidablement bien à ce film.
Mais ce film se fait descendre en flèche par la critique, Claude Lelouch.
Oui.
On dit même que c'est un film réactionnaire, fasciste.
Oui, alors mais je leur avais dit, mais bien sûr, puisque c'est le portrait de deux mecs réac et facho. Donc c'est normal que ce soit un film réac et facho. Et encore une fois, le temps a donné raison à ce film, puisqu'aujourd'hui... ce film passe, repasse, a fait le tour du monde. Et
l'histoire du kidnapping de Johnny Hallyday pour relancer sa carrière.
Oui, le kidnapping et puis le kidnapping du pape aussi. Ouais. Donc on avait peur de rien dans ce film.
Et comment vous aviez vécu à l'époque ces critiques après avoir été encensé, placé au nu finalement tout d'un coup
Bah écoutez, il y a deux projections importantes à Cannes. La projection des critiques le matin. Donc j'étais rentré dans la salle pour voir leur tête et ils riaient comme des fous. Donc je me dis, tiens, ils vont aimer. Et puis ils ont déglingué le film. Et le soir, le film, pour le public, a fait un triomphe. Et deux heures après, dans les salles, toutes les salles étaient pleines, blindées. Ça a été un de mes plus gros succès.
Tiens, on va encore faire un hommage à Cannes, puisque la dernière, la soirée justement de la remise de la Palme d'Or avec la projection du nouveau film de Nakache et Toledano a été baptisée cette année par Thierry Frémaux et Pierre Lescure, la dernière séance.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né.
L'excellent Eddie Mitchell, sauf que là, vous l'avez choisi pour représenter l'année 77, une année de western pour Claude Lelouch.
Oui, vous tournez vers les États-Unis, vous réalisez ce western, Un autre homme, une autre chance, tenter un peu l'expérience américaine.
Oui, j'adore les westerns. Oui. J'avais un rêve de faire un western et... Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller aux États-Unis, raconter l'histoire des Français qui migraient aux États-Unis avec Huster, Geneviève Bujold et James Caan.
Qu'est-ce que le western ? Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui, à ce micro, disent leur envie, leur passion autour du western. Quels sont les codes qui plaisent tant au monde du cinéma ? Est-ce que c'est simplement d'avoir grandi dans les films de John Ford et de se dire un jour j'aurai le mien ? Ou est-ce qu'il y a des codes comme les yeux, je sais pas, les cadres, la musique, l'ambiance ?
C'est une métaphore.
Moite.
Les gens qui tirent les premiers ont souvent raison, quoi. Le gunfight, c'est la métaphore parfaite.
Oui, mais ça peut se faire dans n'importe quel cadre.
Oui, c'est toujours la lutte des héros contre les salopards. Bon, moi, j'aime pas les super-héros. Il n'y a pas de super-héros dans les westerns. Il y a des héros, des gars qui deviennent, c'est des salauds qui deviennent souvent des héros. Bon, j'aime bien... Les super-héros, les super-salauds, j'aime pas ça. Ça n'existe pas, c'est pas vrai.
Tous les westerns sont plutôt
mais les personnages
contre sont les méchants. Les méchants sont les Indiens, alors que c'est quand même eux qui sont fait massacrer.
Non, mais dans le western, on retrouve toutes les contradictions du monde dans lequel on vit. Je veux dire que ce soit politique au niveau de l'aventure, construire, traverser un pays, affronter les dangers. Donc j'ai toujours aimé le western. Et c'est pour ça que j'avais très envie de faire Un autre homme, une autre chance.
Mais vous vous rendez compte à ce moment-là que vous êtes un metteur en scène français et donc que c'est pas forcément l'industrie qui vous convient. En quoi ça a été un problème ?
Ben j'ai refusé toutes les propositions américaines, surtout après Un homme et une femme. On m'a tout proposé, on m'a même proposé un film avec Marlon Brando et Steve McQueen.
Et pourquoi avoir refusé ?
Ben, j'ai refusé parce que j'ai compris très vite que c'était une profession de producteur et que le metteur en scène n'était pas numéro un. Il fallait qu'il y ait autant de gros plans pour l'un que pour l'autre, autant de répliques pour l'un que pour l'autre. Il fallait que ça se termine bien pour l'un et pour l'autre. Enfin, je veux dire que d'un seul coup, j'ai dit, bon, c'est pas le genre de cinéma que j'ai envie de faire. Moi, j'aime filmer la vie avec ses contradictions, avec ses hauts, avec ses bas, avec ce mélange de genres. La vie est un mélange de genres et moi, j'aime que mes films soient des mélanges de genres. Donc, j'ai très vite compris que si j'allais aux États-Unis, ils allaient me racheter. Pour utiliser ma technique, pour utiliser mes mouvements de caméra, mais pas ce que j'avais envie de dire.
Vous avez dit à propos de la nouvelle vague, vous vous souvenez de ce que vous avez dit sur la nouvelle vague, parce que vous n'êtes pas tendre avec elle.
Oui, ben, elle m'a appris beaucoup de choses parce qu'elle m'a montré tout ce qu'il fallait pas faire. Il faut pas être chiant quand on fait un film. D'accord. Je veux dire que la cour de récréation est très importante. Vous savez, il n'y a pas un enfant qui irait à l'école s'il n'y avait pas la cour de récré. Et je pense qu'un film doit être avant tout une cour de récré. Et après, si on a réussi la cour de récré, on peut monter dans les salles de classe.
Vous êtes sévère avec la Nouvelle Vague quand même.
Non, mais la Nouvelle Vague, c'est Godard. Et c'est lui. Il a inventé la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, c'est lui. Et il a inventé la Nouvelle Vague. Et puis après, pourquoi il l'a tué? C'est lui qui l'a tué lui-même. Donc, il l'a suicidé. Mais c'est vrai que la Nouvelle Vague, pour moi, ça a surtout été la marée basse du cinéma français.
Ok. Guillemette Odissino, bonjour Guillemette.
Hey,
vous
bonjour.
Êtes ici chez vous à Inter, vous êtes également journaliste à Télérama, vous intervenez sur Inter tous les vendredis dans Grand Bien Vous Fasse, chez l'ami Ali Rebéi, de 10h à 11h. Claude Lelouch, bon, il a pas sa langue dans sa poche, il a pas non plus sa caméra obstruée, toujours aussi vert. Comment définir le cinéma de Claude Lelouch? D'abord, est-ce qu'il est définissable?
Oui, ça s'appelle Claude Lelouch.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est ça le truc fou. C'est que Claude Lelouch, c'est un franc-tireur. Bah, on vient de l'entendre parler de la Nouvelle Vague avec une liberté de parole absolue. Mais c'est vrai que c'est vraiment le cinéaste anti-Nouvelle Vague parce que c'est, vous savez, dans La Nuit Américaine, François Truffaut dit à Jean-Pierre Léo, ne t'inquiète pas, les films, Alphonse, c'est plus beau que la vie. En fait, Claude Lelouch, c'est pas exactement ça. Claude Lelouch, c'est le cinéma, c'est aussi beau que la vie. C'est pas exactement pareil. Le cinéma, c'est la vie pour lui. C'est pas censé être mieux, en dessous, au-dessus, à côté. C'est exactement la vie.
En fait,
Avec toutes les manières de la choper.
Il vit le cinéma. C'est-à-dire, il y a aussi, pardon Claude si je vous choque en disant ça, mais on a le sentiment par moment que quand vous tournez un film, d'un coup vous dites, je vais faire du cinéma. C'est-à-dire que, non mais, sans que ce soit un effet de cadre, mais l'idée du plan séquence par exemple, c'est comme une espèce de défi technique en disant je vais faire du cinéma. C'est un peu plus que filmer la vie. C'est pas parce que filmer la vie, on pourrait se dire, c'est on pose la caméra là, on vit devant, c'est un plan fixe, on filme la vie. Non, il y a des mouvements, il y a des cadres, il y a des lumières,
il faut la magnifier.
Y a des jeux, ouais, il y a la technique.
C'est-à-dire, il faut la magnifier. Toute cette émission, vous n'avez pas arrêté, Monsieur Lelouch, vous bouffez la vie, ça se voit, vous en parlez, vous aimez ça. Il y a tout qui vous plaît. Vous voulez pas vieillir, vous ne mourrez. Je suis pas sûr que vous puissiez mourir d'ailleurs, enfin vu l'énergie.
Même en faisant des efforts. Il
non,
y aura
même
du mal,
en faisant des efforts, je crois qu'il va pas y arriver. Et donc en fait, c'est ça, c'est aussi cette vie-là, c'est la magnifier, c'est faire en sorte que tout d'un coup Annie Girardot est la femme absolue. Tout d'un coup dans un film, c'est la femme absolue, elle est à la fois drôle, pathétique, elle pleure en haut d'une passerelle d'avion parce que ce crétin de Jean-Paul Belmondo en fait ne vient pas au rendez-vous et soudainement il y a un gros plan sur cette femme et en 2 minutes, c'est toutes les femmes à la fois. Avec à la fois le sourire, les larmes qui sont contenues.
Enfin, on est avec elle, ouais. On la comprend. Ouais.
Oui, donc il y a vraiment quelque chose. Oui, la vie, d'accord, mais magnifiée.
C'est ça.
Par aussi sa volonté de faire un peu quand même le malin avec le cinéma. Hein, oui, on fait quand même. Oui,
d'accord.
Oui, oui, bien sûr.
Mais je revendique totalement.
Très bien. Totalement, c'est important. Dites.
Non, j'aime la vie. J'aime la vie avec tous ses défauts, et. Ces défauts sont très photogéniques. S'il n'y avait pas les emmerdes, s'il n'y avait pas les défauts de la vie, Zola n'aurait rien écrit, Balzac non plus, Victor Hugo n'aurait pas fait Les Misérables. Donc les emmerdes c'est notre fond de commerce.
Alors,
vous n'auriez pas fait Les Misérables non plus.
Il y a aussi vos emmerdes de réalisateurs. Ça devient un nom commun. On dit un Claude Lelouch. On parle d'un film et de lui, voilà, un Lelouch. On va voir un Lelouch.
Oui, on va voir un Lelouch. Et je pense que les acteurs vont tourner un Lelouch.
C'est ça.
Je ne suis pas tout à fait persuadé qu'ils sachent exactement ce qu'il y a dedans, mais au moment où ils acceptent.
C'est un passage obligé, quoi.
Oui, c'est un peu un passage obligé. Bah, le plus bel exemple étant Jean Dujardin, qui à un moment a fait vraiment une fixette. Il voulait faire un Claude Lelouch. Parce qu'il était tombé amoureux, ben, justement, d'un homme qui me plaît. Il voulait être. On n'arrêtait pas de lui dire oh là là, vous êtes le nouveau Belmondo.
Ouais.
Mais non, lui, il était le nouveau Belmondo de Claude Lelouch, en fait. Lui, il était un homme qui me plaît. Il était Belmondo dans une bagnole qui roule dans le désert avec quand même Annie Girardot à ses côtés, ce qui aide, oui. Et donc, et il voulait faire un Claude Lelouch. Donc, il attendait que Claude Lelouch lui écrive un truc quand même avec 2-3 lignes de scénario pour qu'il comprenne. Mais donc, dans quoi il mettait les pieds.
Mais alors, guillemets, voilà. Quand on dit c'est un Lelouch, il y a aussi le qualificatif qui va avant. C'est un bon Lelouch, c'est un mauvais Lelouch. Ça va de pair. Moi, j'ai entendu à la sortie, alors, mais prenez-le plutôt comme un compliment, j'ai entendu des gens disent j'aime pas Lelouch, mais là, c'est un bon Lelouch. À la sortie des plus belles années d'une vie.
Mais ça, c'est aussi assez beau avec ce cinéaste particulièrement, c'est qu'il y a vraiment les anti et les pros, quand même. Hein.
Ah, il laisse pas indifférent, donc.
Oui, ouais. Il y a les anti et les pros. Il y a ceux qui sont amoureux du style de Lelouch jusqu'à aimer ses moins bons films. Et il y a ceux qui ne l'aiment pas du tout jusqu'à, de temps en temps, oser dire « Ah merde, alors celui-là, je l'aime ». Donc il y a vraiment donc il y a un positionnement.
Ouais, ce film va déclencher quelque chose, c'est sûr. Ce film va déclencher quelque chose. Il va revoir, va permettre à plein de gens de revoir leur jugement sur le Lelouch.
Mais c'est ce qui s'est passé à Cannes.
Ouais.
À Cannes, il s'est passé ça. C'est tout d'un coup, ah quand même.
Bah ouais.
Même moi qui aimais pas trop ça.
C'est ce que je dis. Avec la standing ovation, avec tout le monde qui chante derrière et tout le monde s'essuyant les yeux. Merci Guillemette d'apporter votre passion à ce légendaire. Ce micro Guillemette Odissino que vous retrouvez et sur Inter chaque semaine et dans Télérama. On continue dans cette dernière demi-heure de parler avec Claude Lelouch de ses plus belles années d'une vie. Mais Tanguy Pastureau nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour Tanguy.
On ne sait pas ce qu'il advient de nous après la mort.
Non, certains qui sont passés près de la mort, des gens qui ont assisté à un discours de François Bayrou par exemple, racontent qu'il y a un long tunnel comme à l'entrée de la 14 quand on va à Trouville, mais sans péage. Par contre, ce qu'on sait, c'est que notre corps peut désormais être transformé en compost humain. C'est nouveau.
Et on en reparlera après les infos de midi. La bande originale avec Léa Kadoboulani, Agnès Hurstel, Albert Algout, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Ah, bonjour, Tanguy.
T'as eu peur. Hein. Et notre invité, Claude Lelouch.
Bravo.
Avec ces plans séquences qui marquent l'histoire du cinéma et qui marquent la signature de ce film, Les plus belles années d'une vie, plan séquence qui pourrait être un plan séquence qui dure 50 ans finalement, parce que ça a commencé, oui, avec cette formidable histoire d'amour et comme si tout ce qui avait été autour dans leur vie et dans votre vie n'était là que pour alimenter ce film. Ce qui est très fort, c'est que on peut voir ce film, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 1 milliard de personnes qui ont vu, oui, Un homme et une femme, mais je pense qu'on peut très bien voir ce film sans avoir vu Un homme et une femme.
Absolument, absolument, et ça me fait très plaisir qu'on souligne ça. C'est vrai, j'ai construit ce film pour ceux qui n'avaient pas vu Un homme et une femme.
Ouais.
Je me suis dit, il y aura des plans d'un homme et une femme qui leur permettront d'avoir des repères, mais c'est vrai qu'il fallait faire ce film pour les mômes d'aujourd'hui. Il fallait faire ce film pour la génération d'aujourd'hui et pour ceux qui s'intéressent à leurs parents, à leurs grands-parents.
Qui peuvent se poser des questions sur leurs propres amours en étant jeunes, en se disant comment se passerait vie.
C'était important que les mômes d'aujourd'hui voient à quel point on peut passer à côté d'une histoire d'amour. Oui. Parce que quand on est jeune...
On est volage.
On passe à côté de l'essentiel. L'inutile est plus fort que l'essentiel. Et on peut passer à côté de la femme de sa vie qu'on peut rencontrer à l'âge de 15-16 ans. Et comme on se dit, j'ai la vie devant moi.
On la gâche.
Ouais, mais attendez, sympa. Il y a un paradoxe. Hein. Tout à l'heure, vous parliez de votre compagne aujourd'hui en disant le plus dur, c'est de trouver la veuve, pour reprendre l'expression, pardon, de Guitry. Le plus dur, c'est de trouver la veuve. Est-ce que vous verriez, vous, avec tout le respect que je dois à Valérie, vous verriez, vous, rechercher l'un de vos premiers amours, oui, au féminin, se dire finalement je suis passé à côté de histoire.
Je suis passé à côté de quelqu'un. Je suis passé à côté de quelqu'un très jeune et quelqu'un qui a compté toute ma vie, voilà. Et je suis passé parce que trop prétentieux, trop frimeur. Je me suis dit j'ai droit
à... On aurait 10 derrière.
Oui, donc je me suis servi de tout ça. Je veux dire que je pense que la femme de ma vie, elles sont plusieurs. Et je les remercie. Elles m'ont toutes fait grandir, toutes. Même celles qui m'ont fait plus souffrir que les autres. Je veux dire que la vie, c'est ce que j'essaye de dire, c'est une course d'emmerdement au pays des merveilles. Voilà. Hein? Et c'est vrai que je suis heureux à chaque fois que je terrasse un emmerdement. Voilà, donc c'est à chaque fois que j'ai terrassé un emmerdement que j'ai approché le bonheur. Et je me suis aperçu que l'amour, c'était encore mieux que le bonheur. Voilà. Donc je sais plus qui a dit le bonheur c'est bien, mais c'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a rendu le plus heureux, c'est l'amour. C'est l'amour parce que ça donne un sens à tout ce que je fais. D'un seul coup, quand on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, on bascule dans un autre monde.
Vous aimez les phrases comme ça, sentencieuses, des citations et où ben, on a l'impression que tout est résumé en une phrase.
J'adore ces petites phrases qui en disent long. Parce que elles sont le résultat d'un ressenti important. Je veux dire que ceux qui ont écrit toutes ces petites phrases qui nous font rêver, qu'on répète...
Ces aphorismes, oui.
Oui, ces aphorismes ou ces euphorismes, ouais. Ça dépend. Elles sont le résultat d'une souffrance ou d'une joie intense. Et elles ont un sens énorme. D'un seul coup, elles sont dans la vérité. D'un seul coup, toutes ces phrases vont au cœur même de ce qu'est la vie. Et ce sont des raccourcis incroyables pour ceux qui les utilisent.
Et c'est un peu comme vos films, parce qu'Un homme et une femme, finalement, vous décidez de le tourner, vous êtes dans une période un peu délicate, vous prenez la voiture, vous roulez, vous arrivez à Deauville, vous vous garez, comme on peut le voir dans le film, quelque part au bord de plage, et c'est là que vous vient l'idée en voyant un couple.
Oui, mais quand l'idée d'un homme et une femme me vient, la veille au soir, j'ai envie de mourir.
Ouais.
Je sors d'un film qui s'appelle Les grands moments, qui n'intéresse personne, qui a pas trouvé de distributeur, et je me dis, je suis pas fait pour ce métier, j'ai envie de mourir. Et donc, cette nuit-là, j'ai quitté Paris avec ma voiture, parce que à chaque fois que je vais pas bien, je saute dans ma voiture et je roule.
Vous l'avez fait pour Itinéraire d'un enfant gâté aussi.
Ce que j'ai fait aussi. Et donc j'ai roulé toute la nuit.
Et pardon, dans ces cas-là, quand vous roulez, est-ce que vous roulez en pensant peut-être à un accident, en se disant j'en ai marre, et ça viendrait peut-être simplifier tout si j'ai.
Voilà,
si là, je
décor. J'ai jamais pensé au suicide, mais non. Je me suis dit si la mort arrivait ce soir,
elle aurait raison d'être là, quoi.
Elle aurait raison d'être là. Voilà. D'accord. Et donc cette nuit-là, j'ai roulé très vite. Je suis arrivé à Deauville en un temps record. Je me suis écroulé.
Minutes.
Il était 2h30 du matin. Je me suis écroulé. J'ai dormi dans ma voiture avec l'envie de pas me réveiller. Voilà. J'avais pas envie de me réveiller parce que ça allait tellement mal. Et puis, le soleil m'a réveillé. J'étais dans la voiture. Je me suis levé. J'ai respiré un grand coup. C'est important de respirer. La force du soleil, on est des enfants du soleil. Je veux dire que je prends dans le soleil.
Ah, c'est la vie. Ouais, bien sûr.
C'est là où je recharge mon portable. Ouais. Hein, c'est dans le soleil. Et je pense que s'il y a un très grand metteur en scène, c'est là qu'il habite. Voilà. Et que nos âmes vont dans le soleil se ressourcer. Je veux dire, puisqu'on peut pas s'en approcher ni le regarder. Donc je pense que c'est là que on est éternel. J'ai vraiment le sentiment que nos âmes vont dans le soleil, se ressourcent et après on revient. Et le meilleur est gardé puisque le reste a été foutu en l'air. Donc ce matin-là, je me lève, je respire un grand coup, je suis à Deauville sur les planches et je vois une femme très loin, à marée basse, qui marche avec un chien, un enfant. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle fout à 5h ou 6h du matin? Qu'est-ce que fout cette femme avec ce chien?
Et vous lui inventez une vie.
Voilà, et elle est très jolie, et la silhouette est belle, et comme j'ai toujours aimé les femmes, je me dis, j'ai envie de voir son visage. Et je me rapproche de cette femme. Et en me rapprochant de cette femme, j'ai crié à un homme et à une femme. Et j'ai jamais vu son visage. Je me suis, après, rabattu très vite dans ma voiture, j'avais pas de papier, j'avais rien, je suis allé dans un bistrot qui était en face de la gare ouvert à 6h du matin, et j'ai écrit un homme et une femme en 20 minutes. Voilà. Ah.
Et ça donne les plus belles années d'une vie en ce moment au cinéma. Un nouveau film de Claude Lelouch avec Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant. Un film formidable et confirmé par certains membres du public qui ont eu la bonne idée d'aller voir le film depuis sa sortie, c'est-à-dire depuis mercredi dernier. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, personne autour de cette table n'a envie de mourir. Mais
non,
personne.
Non, parce que nous avons des vies passionnantes entre travail, machine à café et open space. Bon, en fait, on a la vie de tout le monde. Mais au moins, on voit Nagui en vrai, nous. Alors que l'auditeur le voit à la télé, c'est pour ça qu'il peut se tripoter s'il trouve Nagui désirable. Jamais, nous, on ne fera ça, parce qu'il y a du public ici, et que ces gens ne connaissent pas les us et coutumes du monde des médias. Au premier orgasme, ils vont nous juger. Oui, on a envie de vivre, de profiter de tout ce que l'existence nous apporte de bien, soit 5 semaines de congés payés par an et des chips. Mais bon, il faut bien mourir, c'est la loi de la nature. C'est ce qui fait que la vie est précieuse et qu'on a envie de kiffer notre race, et même la race de quelqu'un d'autre si on est pour le vivre ensemble. tremble. Tiens, rien qu'hier, alors que j'avais plus faim, j'ai eu conscience de la mort, et ben j'ai repris du gratin. Hein, ce Corace, un poète latin, donc habitué des vers, définissait sous le nom de carpe diem, ce qui en français signifie on n'a qu'une vie, zarma sur la tête de ma sœur, je vais pas la passer à écouter Chaim. Après, chacun a sa façon de mourir. Whitney Houston est morte dans son bain, hein, ce qui risque peu d'arriver à Michel Houellebecq, par exemple, qui a la même hygiène qu'un chat né sans langue. César est mort poignardé par Brutus, le fils de sa maîtresse qu'il n'a jamais reconnu. Hein, il l'a croisé pile les jours où il n'est pas mis ses lentilles. Henri IV aussi est mort poignardé. Il a crié à Ravaillac qui arrivait avec un couteau. Non, arrête, je suis de la viande. Mais l'autre n'était pas vegan. Personne en 1610 n'était vegan. Un mec qui se nourrissait que de céleri, s'il partait pour la guerre de 30 ans, il tenait 7 minutes. Il restait 29 ans, 375 jours et quelques heures à tirer sans lui. Aymeric Caron aujourd'hui, il fait 2 télés par mois et le reste du temps des macramés avec son bouc dégueulasse. Donc plus de 10 petits pois à la semaine, il fait du diabète. Bref, revenons à la mort, parce que je voudrais pas qu'on rit trop. Hein, il est midi, l'auditeur mange, s'il explose de rire, il va envoyer de la blanquette partout sur l'auditrice, comme dans les films spécialisés si Cyril Lignac avait racheté Marc Dorcel. Oh la mort, c'est nul. Non, la mort, c'est nul. Sauf s'il y a un paradis. Hein, le musulman imagine alors retrouver 72 vierges, tandis que le catholique peut lui espérer rejoindre Sylvia Christel et Lolo Ferrari, d'où l'obligation d'avoir là-haut minimum un F2, parce que les ambiances, clairement, sont différentes. Mais pour l'athée que je suis, je ne crois en rien. Même Kylian Mbappé, je m'en fous. Eh ben, la mort, c'est juste un grand rien. On peut donc, à la cool, décider ce qu'il adviendra de notre corps. À part Teddy Riner, parce qu'il n'y a pas de cercueil à sa taille. Et comme on peut pas l'enterrer dans un kangou à cause des écolos qui nous gonflent avec la pollution des sols, il devra passer par la crémation. Mais jusqu'à présent, c'était l'un ou l'autre. Sauf qu'arrive une troisième solution, oula, très à la mode, le compost humain. Alors, le concept est simple. Hein, on dessape tonton Bernard, après avoir vérifié qu'il était mort. Pour ça, on crie « Purée, tonton, il y a le droit au logement qui est en train de mettre une famille de noirs dans ton appart. S'il ne réagit pas, c'est qu'il est mort. Dans le cas contraire, il hurlera « Donne-moi ma carabine, Josiane ». On met sur tonton un mélange de terre, d'herbe et de paille. Hein, la mort de tonton ressemble ainsi à la vie d'un hamster. Et puis, Nagui, on attend.
Mais on attend combien de temps?
Eh ben, on attend. Au bout de 3 mois, nous dit le Parisien qui consacre un article, la peau et la chair du défunt se sont décomposés, on retire la terre, non, on enlève les prothèses, hein, une hanche en plastique, des gros boobs qui en leur temps ont fait sensation au Rascal Club lors de la soirée décapsulage entre les seins organisée par Heineken, et on remet la terre. Mais en gros, tout ce qui est polluant, on retire, parce que le principe est que ce soit 100% écolo. Ensuite, au bout d'un an, tonton Bernard s'est transformé en humus, sauf en Israël où il se transforme en houmous, on récupère l'humus, on met tout ça dans son potager, ça permet de faire pousser des carottes. Wow. Hein, si on détestait tonton Bernard, on peut alors dire « Enfin, il sert à quelque chose ce con là » et au moment du pot-au-feu, avoir une petite pensée pour lui. Alors à noter qu'en France, bah, pour l'instant, ce n'est pas possible. Le lobby de Jardiland a dû faire pression parce qu'ils ont peur de vendre moins de terreau. Hein. Mais aux USA, l'État de Washington vient de légaliser cette pratique. Un bus de touristes qui se crache dans un ravin, hop, un an après, c'est un bio, c'est bon, qui regorge de l'atmosphère. Au resto, vous félicitez le chef, il vous répond « Non, c'est ma mamie qu'il faut complimenter, les betteraves, c'est elle !» Bref, bonne ambiance. Ah, sachez que Luke Perry, par exemple, hein, Dylan de Beverly Hills, a été enterré dans sa ferme, alors on lui a mis une combinaison en champignons. Hein, ça ressemble un peu à la mort d'un schtroumpf, mais bon. Donc là, il est en train de se biodégrader, et dans 9 mois, on fera une Macédoine. Hein, la mort génère la vie. Pour l'instant, d'un vieil aïeul impotent, on disait que c'était un légume. Et bien, si on le met dans le sol, dans des fringues en champignons, il fait pousser des légumes. On reste dans le thème. D'autant que quand on est mort, on se fout de porter une veste en champignons, parce qu'on n'a plus conscience du ridicule. Même si certains n'ont pas cette conscience, vivant, Eddie de Pretto.
Oh non, laisse-le.
Aurait l'air plus crédible habillé en champignon, hein, même avec 4 girolles sur la tête, qu'avec son look actuel. Il attend sans doute sa mort pour être digne. Bref, le compost humain, c'est formidable. Là, autour de la table, on est 6-7. Si on crève tous maintenant, dans un an, Laurence Bloch, directrice de France Inter, fait une potée.
Merci. La boule originale. Parce que justement, on a ri autour de la mort avec Tanguy Pasturo. C'est vrai que la mort est présente aussi en filigrane dans ce, dans votre film, parce que vous dites c'est la vie, c'est l'amour, c'est une course vers cette ligne d'arrivée, mais aussi on se projette dans l'esprit, dans le cœur, dans l'émotion d'Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, qui a forcément aussi cette pensée sur quand tout ça va s'arrêter.
Oui, mais alors, encore une fois, notre part de rationnel, notre intelligence ne dit que la mort existe, qu'on va tous y aller.
Ça,
voilà.
On peut pas éviter.
Notre part d'irrationnel nous dit le contraire. Notre part d'irrationnel nous dit qu'on est là pour toujours, qu'on est immortel. Alors, qui il faut croire? Et moi, j'ai envie de croire cette part d'irrationnel.
Non, mais vous, les artistes, que ce soit les réalisateurs ou que ce soit les acteurs, vous êtes immortels, puisque à travers vos œuvres d'art, vos films, les chansons, les livres, les jeux, vous serez toujours...
Non, mais je pense que les artistes, on est les chouchous du bon Dieu. Je suis sûr de ça. On est là, on est des observateurs attentifs. Je veux dire qu'on regarde le monde avec un microscope absolument incroyable qui peut s'appeler un livre, un disque, une chanson, un film. Mais c'est vrai qu'on est là pour observer ce monde et le faire aimer malgré tous ses défauts, ce que je disais tout à l'heure, quoi.
On parle de la mort et vous parlez d'observer le monde. Vous avez filmé avec votre portable l'enterrement de Johnny Hallyday et on en avait beaucoup parlé peut-être beaucoup trop, mais finalement vous n'êtes pas entendu d'explication sur.
Non, c'était tout simplement parce que j'ai beaucoup de tendresse évidemment pour la famille de Johnny.
Bien sûr, enfin, vous avez beaucoup tourné et travaillé avec Johnny.
Je veux dire que sa famille, c'est un peu ma famille. Ouais. Et j'avais envie de leur faire un petit cadeau. Et ce film, il est destiné à eux. Il n'était pas destiné à sortir ou à spéculer ou quoi que ce soit. J'avais envie, c'était ma façon à moi de dire au revoir à Johnny. Voilà. Et je pense qu'il a dû être content que je le filme. Voilà. Enfin, que je le filme. Que je filme les gens qu'il aimait et j'ai voulu faire des gros plans sur ceux qu'il aimait vraiment. Voilà, j'avais envie de laisser ça.
Mais pardon, Claude, ce sont des gros plans dans des moments où on n'a peut-être pas envie de se voir en gros plan, c'est-à-dire qu'on est marqué par la tristesse et par le deuil.
Encore une fois, ma caméra m'a consolé de tout. Oui, je veux dire que c'est derrière ma caméra, j'ai le sentiment que je suis venu sur cette terre pour me servir de ma caméra. Voilà, c'est un objet que j'aime à la folie parce que cet objet me donne tous les courages. Et puis je vois derrière elle ce que je vois pas avec mon œil. Voilà, je pense que c'est un œil performant qui me permet de mieux comprendre la vie et d'essayer de la faire aimer. Voilà, c'est mon obsession. Je vais bientôt commencer mon 50e film et j'ai envie de faire aimer la vie. Envie de la faire aimer malgré tout ce qu'on essaie de nous faire croire.
Vous qui êtes superstitieux, enfin qui aimez particulièrement le chiffre 13, ce film-là est le 49e,
oui.
4 et 9.
Ça fait 13.
On est d'accord.
Bravo, d'accord.
On est bien, on est bon en maths. Les plus belles années d'une vie,
c'est un vrai scorpion. Hein.
Ce 49e, oui, j'assume. Ce 49e film Claude Lelouch, on parle de caméra, vous parlez de caméra, justement de cet objet avec lequel vous rentrez dans le regard, dans le cœur, les émotions de vos acteurs et de vos personnages. Là, vous êtes servi de plusieurs, je crois, de plusieurs formes de caméra, parce qu'il y a des cadres qui ne sont pas possibles. Il y a un autre plan séquence. Je me demande s'il n'a pas été fait d'ailleurs avec un téléphone.
Oui.
Le plan séquence où on sort du bureau de Marianne Denicourt.
Et on descend jusqu'en bas. Oui, oui.
Celui-là, vous qui l'avez fait avec un portable.
Je viens de découvrir le portable. Bon, c'est un objet qui a été fait pour les amateurs, mais si les professionnels savaient à quel point il a été fait pour eux, moi, je suis en train de libérer mon cinéma avec ce portable. Je veux dire que je viens de faire un film.
Uniquement portable.
Avec uniquement le portable, qui va s'appeler « La vertu des impondérables », un sujet dont on a parlé tout à l'heure et qui sortira à la fin de l'année, qui sera entièrement... Et je l'ai entièrement tourné avec mon portable.
Mais là, vous avez déjà,
dans ce film, tous les rêves sont tournés avec le portable.
Ah, tous les rêves. Donc la séquence dans la deux chevaux aussi.
Voilà, c'est tourné.
Parce que là, je me suis dit, elle est où la caméra? Elle ne peut pas être dans cet axe-là. Voilà, et il n'y a pas assez de recul, il n'y a pas assez de place.
Et donc, avec le portable, je peux tout filmer. Je peux aller partout, rentrer n'importe où. Et puis en plus, ne pas avoir l'air de faire un film. Donc, ça change ma vie. C'est vrai que cette caméra, j'en ai rêvé toute ma vie. Ça y est, et je ne voudrais pas être le dernier à m'en servir. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un vieux con comme moi de 80 ans qui se sert de cette machine. Et que les jeunes en ont peur. Ils veulent des grosses caméras, ils veulent des fauteuils avec leur nom, des gros projecteurs.
Non, c'est là où on voit que vous êtes encore un minot, au contraire. Vous êtes un jeune homme, les plus belles années d'une vie. Non, le vieux con, il est là, c'est Daniel Moreau.
Quel art de l'enchaînement. Monsieur Lelouch, quelle joie de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Claude Lelouch, ça, c'est de l'invité de prestige. Et votre film, Les plus belles années d'une vie, quelle émotion. Et que dire d'un homme et une femme, chef d'œuvre. Et la musique, on en parle depuis le début de l'émission. Bon Dieu, la musique, bordel de Dieu. Oh, on revoit encore Jean-Louis Trintignant volant de son bolide. Quelle musique. Avec une musique comme ça, tu rends tout beau. Avec une telle musique, même les programmes les plus cons prendraient de la hauteur. Allez, on fait le test.
Bienvenue dans la bande originale. Nous recevons aujourd'hui Donald Trump.
Bravo. Ouais. Vous avez entendu ça? Tout de suite, ça donne du relief et de la tenue, cette musique, même avec comme invité un gros con. Voilà. Et même pour la pub, cette musique ferait merveille. Tenez, écoutez la différence. Version classique. Vous aimez les saucisses? Vous aimez la nature? La saucisse Herta est faite pour vous. Grillée au feu de bois, elle a cette saveur si particulière. Saucisse Herta, la saveur de l'authentique. Allez, on essaye une nouvelle version.
Pas les saucisses.
Vous aimez les saucisses?
Non!
Vous aimez les bagnoles? La saucisse Lelouch est faite pour vous. Grillée sur le pot d'échappement de la voiture de Jean-Louis Trintignant, elle a cette saveur si particulière.
Tu respectes rien.
Saucisse Lelouch, la saveur de la légende. Ah, c'est autre chose, hein. Et là, dans votre regard, Claude, je sens beaucoup d'émotions charcutières. Enfin, bon là, on s'éloigne un peu du cinéma oui, quand même. Pour revenir au 7e art, Claude, je vous propose un autre couple de légende. Un autre couple inséparable et peut-être un remake audacieux d'un homme et une femme. Un homme, une femme, une rencontre. Déçue par un chagrin d'amour, c'est la révélation quand elle croise le regard de celui qui va l'accompagner en l'affrontant dans tous ses combats. En 2017, en 2019 et probablement en 2022, elle est diabolique, il est narcissique. Tous les deux aiment le pouvoir. Marine, Emmanuel, Emmanuel, Marine, Marine, Emmanuel, Marine. Un homme et une femme que tout oppose mais devenus inséparables. Unis comme deux amants fous qui se déchirent et se détestent mais se retrouvent toujours au deuxième tour. Ah, ça a une gueule folle, non? En plus, c'est ancré dans le quotidien, c'est le succès assuré. Oh, l'amour, à demain, les amis.
Merci, Daniel Brun.
La bande originale avec Nagui.
Donc, au cinéma, Les plus belles années d'une vie, vraiment, allez voir ce film, allez le voir peut-être avec vos parents, avec vos enfants, c'est transgénérationnel, ça parle à tout le monde, c'est...
Non, vraiment, c'est bien.
C'est rythmé, c'est drôle, il y a des plans séquences, alors là, pour les techniciens du cinéma, les amoureux du cinéma, mais c'est pas que des effets de manche, c'est ça qui servent l'histoire, ce plan séquence le plus dingue du cinéma en bagnole qui traverse Paris à toute berzingue pour en venant de Normandie finalement pour aller jusqu'au Sacré-Cœur retrouver son amour et puis deux comédiens et j'oublie pas le reste du casting mais c'est vrai que quand même Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant ils ramassent tout parce qu'ils sont formidables, ils sont émouvants comme ils le sont dans la vie d'ailleurs et c'était extrêmement touchant de les voir tous se réunir autour de vous à Cannes mais de les voir réunis aussi devant votre caméra. Prochain film, on a compris, entièrement tourné au portable. Vous avez déjà en tête ou écrit un autre scénario, je crois, autour de Notre-Dame de Paris, vous aviez des envies.
Oui, je prépare un film qui va s'appeler Les fantômes de La Pérouse, qui sera tourné entièrement dans le restaurant La Pérouse.
Qui est sur les quais des
Grands
du Saint, c'est ça,
voilà,
qui est à côté.
Absolument, ouais. Et qui est un restaurant qui a vécu la vie de Paris pendant 300 ans. Je veux dire que si on veut parler de Paris, c'est le restaurant idéal pour parler de Paris que j'aime tant.
Il y a une actrice ou un acteur avec lesquels vous n'avez pas encore tourné que vous aimeriez diriger?
Oui, j'en ai plusieurs dans la tête, plusieurs. Alors, comme ils sont nombreux, je ne vais pas vous les citer.
Pour vexer personne. Voilà. Très bien. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé, comme tous les mardis, pour le malaise, la gêne, la gênance et même la géniture créée par les réponses d'Agnès sur Stel lors de l'interro. Alors, au programme, allusion morbide, inculture stratosphérique, sexualité malsaine à base de... promesse buccale à Orelsan, qui d'ailleurs attend dans le couloir, je l'ai vu passer tout à l'heure. Non, ne me regarde pas Agnès, tu es le diable. Désolé pour nos auditeurs qui nous ont appelés à la pause pour nous dire que c'était bien sympa cette émission avec Claude Lelouch, cet hommage à Jean-Louis Trintignant et à Anouk Aimée. Mais public et auditeurs qui regrettent que Jean-Jack Lang n'ait pas plus détaillé tous les bienfaits de l'anal bleaching. Alors, moi perso, j'y connais pas trop, mais Nagui qui pratique depuis longtemps répondra à toutes vos questions sur la page Facebook de l'émission. Désolé pour Charlie Chaplin qui a été... traité de faux cul. Désolé pour Jean-Luc Godard qui a été qualifié d'assassin. Ça va, c'est du Claude Lelouch. Et finalement, c'est rien par rapport à ce que dit Agnès sur Jean Dujardin, Nagui sur Patrick Sabatier, Leïla sur son dealer de Poppers. Bref, vous l'aurez compris, cette émission est loin d'être bienveillante. C'est un beau ramassis de salopards.
Pour l'anecdote, Claude Lelouch, hier nous avions une de vos comédiennes qui faisait partie d'ailleurs de vos amis réunis autour de vous à Cannes, Mathilde Seigné, et demain nous recevons Julie Ferrier qui a joué deux personnages dans un même film. Vous voyez,
oui, dans chacun sa vie. Vous êtes deux actrices formidables.
Vous êtes
vraiment formidables.
Entourée de deux femmes et de deux femmes de la famille Lelouch. Merci Claude Lelouch, encore bravo.
Merci.
Avec beaucoup de tendresse, les plus belles années d'une vie au cinéma, les plus belles années de la radio, c'est avec Philippe Bertrand maintenant.
Oui, c'est celle qui reste à vivre, hein, vivement demain. Salut les amis. Ouais. Et Ferrier demain, c'est jeudi.
C'est drôle.
Oh. Excellent.
Et promis, on la fera demain aussi.
Ouais, d'accord. Et je voulais saluer Claude Lelouch parce qu'il est à moitié bourguignon maintenant, comme moi.
Oui,
à Beaune.
J'ai des ateliers de cinéma à Beaune.
Bah, absolument.
Il m'a créé un petit Hollywood à Beaune pour.
S'il vous plaît.
Pour encourager
les jeunes.
Les jeunes et les grands metteurs en scène de demain.
Merci Philippe Bertrand.
Salut les amis.
Salut.